Moins de 4 semaines. Il reste maintenant moins d'un mois avant l'élection la plus suivie sur le globe. Vous rendez-vous compte, le compte à rebours final est vraiment enclenché. Kamala Harris, Donald Trump, Kamala Harris. Les jeux sont loin d'être faits. Trop tôt encore pour mettre l'argent sur le tapis vert des paris. Alors on va faire le point avec le club des 5. Franco de Washington, Guillaume Nodin de RFI, salut.
Salut.
Jordan Davis de la Confédération Helvétique.
Salut Frédéric.
Sonia Dridi pour la Rotebeuf, la RTBF.
Hello.
Et Sébastien Paour de France Info est là aussi.
Pas de jeu de mots, hein ?
Non.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je suis Frédéric Arnoul de Radio-Canada. Bienvenue dans ce 10e épisode de Washington DC, saison numéro 2.
Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Washington DC.
So now we have a new victim to defeat, Lion Kamala Harris.
I know Donald Trump's type.
Le podcast des médias francophones publics.
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
We'll stop Donald Trump's extreme abortion bans.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
And when we fight, we win. God bless you. God bless the United States.
Washington, D.C.
Un menu chargé, Elon and the Felon, Musk et Trump sur la même scène, une bonne dose de désinformation, des surprises d'octobre dans l'œil de la tempête, des sondages toujours aussi serrés, on en viendrait presque à oublier le débat des VP. Allez, un petit tour de table, Guillaume, toi tu as eu le plaisir, l'honneur et l'avantage d'aller voir sautiller comme un saumon qui remonte la rivière Elon Musk, le patron de SpaceX et de X, aux côtés de Trump, c'était à Butler en Pennsylvanie. Parle-nous de cette ambiance.
Alors, c'était... D'abord, il y avait beaucoup de monde. Un petit 20 000 personnes, c'est quand même pas mal pour une réunion de ce genre. Ça a commencé par un survol de Trump Force One au-dessus de la foule, sur fond de musique de Top Gun. Les gens étaient ravis, c'était extraordinaire. Exactement. C'était exactement ça. Les gens étaient ravis. Et puis, Donald Trump... Il est arrivé, il a été acclamé derrière ses vitres blindées, puisque c'est là qu'il avait eu sa première tentative d'assassinat. C'était là qu'il revenait d'ailleurs. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il est en extérieur, il s'exprime derrière des vitres blindées. Et il a repris les choses exactement là où il les avait laissées. As I was saying, c'est comme ça qu'il a commencé. Mm-hmm. Comme je vous le disais, il a remontré le fameux graphique sur les chiffres de l'immigration qu'il était en train de commencer quand les balles ont sifflé à ses oreilles. Mm-hmm. Et les gens étaient fous de joie. Moi, j'ai parlé à des gens qui me disaient on pouvait bien revenir ici, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus, qui étaient déjà là le 13 juillet quand il s'est fait tirer dessus. On pouvait bien revenir ici parce que s'il est capable de prendre une balle pour nous tous, eh bien, nous, on peut le soutenir. Et donc, Donald Trump a repris son discours et puis il a commencé à placer ses éléments de langage habituels et puis il a fait entrer Elon Musk sur scène.
Come on up here, Elon.
Alors, une entrée, vous l'avez tous noté, tu parles de saumon qui remonte la rivière. Mm-hmm. Nous, en France, on dirait plutôt qu'il sautait comme un cabri. Et puis, Elon Musk s'est exprimé pour dire que c'était l'élection la plus importante de notre vie et qu'il fallait absolument s'inscrire, voter, sinon il n'y aurait plus d'élection si les démocrates gagnaient.
Évidemment.
Évidemment, il a vendu la toute dernière casquette MAGA au public en disant « Regardez, moi j'ai ça, achetez-la aussi ». Et puis il a recédé à nouveau la parole à Donald Trump. Et puis je dois vous dire, et je me méfie beaucoup quand je dis ça, parce que je sais qu'on va dire que les journalistes racontent n'importe quoi. Mais non, jamais. Mais les gens partaient avant la fin. Ils sont vraiment partis en masse avant la fin. Quand ils ont vu Trump arriver, il y en avait déjà qui commençaient à partir. Quand Elon Musk a parlé, là, c'était le lieu, la foire agricole, c'est comme ça qu'il faut le dire, qui se vidait complètement. Je ne dis pas qu'il y a un désintérêt, qu'ils n'étaient pas convaincus.
Mais c'est très long aussi.
C'est très long. Il était 19h et c'est très tard aux États-Unis. Et il y a la culture de, on vient un peu au spectacle. Il y avait des gens qui étaient au food truck là pour se commander à manger, et puis ils partent avant la fin pour éviter les embouteillages.
Parce qu'ils ont fait aussi la file pendant longues heures avant que ça commence.
Pendant des heures avant que ça commence, absolument.
C'est ça qu'il faut expliquer un peu.
Il ne faut pas en tirer des conclusions que les gens partent.
Voilà. Non mais Sébastien. Nous journalistes, non mais juste un détail logistique pour nos auditeurs. Quand on vient à un meeting de Trump ou de Harris d'ailleurs, mais de Trump aussi, il faut qu'on arrive très tôt parce que les services secrets avant même qu'ils se fassent tirer dessus, veulent contrôler notre matériel. Donc là, j'imagine que les gens, ils arrivent plusieurs heures avant, en début d'après-midi, voire en fin de matinée. T'es arrivé en fin de matinée, Guillaume ?
Je suis arrivé vers midi. On m'avait dit de ne pas arriver après pour une heure de l'après-midi pour un speech qui était prévu à 5 heures.
Bon, donc les gens, quand ils voient que Trump commence à parler 20 minutes, une demi-heure, parfois c'est une heure et demie, peut-être 2 heures... Bah, ils partent avant, hein. Moi ça ne m'étonne pas. Hein.
Bon, les gens traitent ça aussi comme on fait pour les matchs de football aux États-Unis où ils font du tailgating, c'est-à-dire souvent ils sont sur le parking avant à faire leur pique-nique, à voir leurs amis. C'est une sorte de rituel pour beaucoup de ces Trumpistes. Ils viennent, ils ont vu Donald Trump sur scène et à la limite ça leur suffit parce que de toute façon c'est le même discours depuis toujours. Ouais. Donc ils l'ont vu, même s'ils partent au milieu, ils ont l'impression de l'avoir vu, d'avoir eu ce moment de lien avec lui. Ils ne restent pas pour le. Ils écoutent. Pas toujours jusqu'au bout de toute façon.
Bah, ils connaissent, en détail ils connaissent le message.
Et c'est rarement des nouveautés foudroyantes.
Elon Musk, là, dans le fond, Sonia, qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce que dans le fond, ils sont pas mal main dans la main. Je veux dire, c'est la même désinformation qui diffuse les deux. Donc, qu'est-ce que ça apporte, ça? C'est pour faire mobiliser les troupes davantage?
Alors, je ne sais pas si ça va vraiment aider à mobiliser les troupes davantage, parce que les MAGA fans, ils n'ont pas besoin d'Elon Musk. C'est plutôt un soutien important pour Donald Trump financièrement et pour aussi convaincre des personnes justement moins MAGA, des républicains de la Silicon Valley notamment, à rejoindre Donald Trump. Mais vous parliez de saumon, de cabri, je pense qu'il faut... Je ne sais pas si les auditeurs ont vu cette photo quand même extraordinaire, où l'on voit à côté de Trump, qui a quand même un certain gabarit, Elon Musk qui, comme vous dites, frétille, avec son... On voit son ventre parce que son t-shirt est trop court. Enfin, ces deux styles, ces deux Amériques complètement différentes et cette photo est quand même extraordinaire.
Bon, Elon Musk joue un rôle clé pour Donald Trump, c'est-à-dire que toutes les opérations de terrain dans la plupart des États clés en fait sont gérées par Elon Musk, financées par Elon Musk, par son PAC. Donc c'est donc Elon Musk joue un rôle clé pour Donald Trump. La campagne de Donald Trump est une sorte de coquille vide cette année parce qu'on ne sait pas où part l'argent, sans doute en beaucoup d'honoraires d'avocats. Mmh. Et donc Elon Musk est au cœur de cette campagne et Elon Musk, y compris sur la propagande, sur les réseaux sociaux. Il faut le dire.
Oui, parce que c'est un endorsement, c'est un soutien très important Elon Musk, parce qu'on a parlé beaucoup, on a parlé dans ce podcast du soutien de Taylor Swift à Kamala Harris. Il y a quelques jours, c'est Bruce Springsteen, sans surprise, qui a annoncé son soutien à Kamala Harris. Mais ils ne le font qu'une fois. Elon Musk, lui, il le fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Ouais. C'est quelque chose qui est probablement très efficace.
Moi, il y a deux choses qui m'interpellent dans la présence de Musk. C'est d'abord les mots qu'il prononce.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Il dit, je suis dark MAGA. Le dark MAGA, c'est quand même le MAGA conspirationniste, suprémaciste blanc. Mm-hmm. C'est extrêmement dangereux. Et il dit aussi, il faut qu'on vote, parce que si on ne vote pas, autrement dit, si on n'élit pas Donald Trump, ce sera peut-être la dernière élection. Je trouve ça extrêmement grave.
Mais
de
les
la
démocrates
part
disent
de
la même chose, par exemple.
Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, t'as vu comme c'est brandi
sauf
par
que
ce
les
gars
républicains
qui monte sur scène, sauf
que...
qui est l'homme le plus riche.
Voilà, les républicains disent ça, ce n'est pas pour dire que Kamala Harris va mettre fin à la Constitution. C'est pour dire que les démocrates font venir des migrants en masse pour voter dans l'élection. C'est ça le fond c'est ça le contexte de ce propos. C'est ça ce qui entre dans la tête des fans de Donald Trump quand ils entendent ces propos-là. C'est évidemment faux, c'est évidemment de la désinformation, mais cette idée du grand remplacement, cette idée qui s'est organisée, je veux dire, ça c'est latent depuis longtemps et ça ressurgit par moments dans l'espèce de lexique, dans l'espèce de républicaine.
Et juste pour compléter ce qu'on disait sur l'homme le plus riche du monde qui soutient donc l'un des deux candidats, en l'occurrence Trump, vous avez vu qu'il a... Il met en ligne une pétition sur sa page X, puisqu'il est le propriétaire de X, il a 200 et quelques millions d'abonnés, où il propose de donner $47 à tous les électeurs potentiels qui leur donneront le nom d'un autre électeur potentiel.
Et ça s'appelle l'interférence électorale ?
Bien sûr que si. Et quant à l'homme le plus riche du monde qui, comme ça, donne du fric pour faire venir des électeurs,
c'est un peu comme le vilain, le méchant de James Bond, en fait. Ce milliardaire là qui veut contrôler tout, c'est quand même assez particulier.
Mais c'est quand même incroyable parce que là, on était revenu sur les lieux 3 mois après cette tentative d'assassinat. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on entend un peu ce glissement sémantique où on dit eux, ils ont essayé de tuer Donald Trump, eux, ils ont essayé le eux qui est rarement explicité. Et là, c'était they. Et là, c'était encore plus explicite dans la bouche dans la bouche d'Eric Trump qui dit. texto que les démocrates ont essayé de tuer son père. C'est évidemment un mensonge. L'assassin présumé, enfin l'assassin qui n'est plus là pour témoigner de ses motivations. Mais en tout cas, le FBI n'a trouvé aucune motivation politique parce qu'il avait apparemment aussi regardé les meetings de Joe Biden dans le coin aussi. Ouais. Donc, mais cette idée de remettre une couche sur cette espèce de ressentiment, cette espèce de haine des démocrates finalement. Ils vont essayer de faire venir des migrants pour voter à votre place. Ils ont essayé de tuer Donald Trump. C'est extrêmement, enfin à moins d'un mois de l'élection, ça m'inquiète sur le reste de l'élection quand j'entends ce genre de langage.
Donc on va tourner cette page justement Trump-Musk pour parler un peu du sujet de ces jours-ci aux États-Unis. Parce qu'au moment où on se parle, il y a l'ouragan Milton qui balaye la Floride après l'ouragan Helene qui a ravagé plusieurs États dont les Carolines et la Géorgie. C'est la troisième tempête majeure depuis septembre. On va parler d'abord de la gestion sur le terrain. Chaque fois qu'il y a des ouragans, vous le savez, tous les doigts sont pointés sur la présidence. On peut en parler d'ailleurs encore à George W. Bush lors de l'ouragan Katrina en Louisiane 2005. C'était vraiment le grand responsable de ce fiasco. Sonia, toi, tu as fait un petit tour dans le bureau ovale, alors que Joe Biden, qui est encore, faut-il le rappeler, hein, c'est encore le commandant en chef du pays, doit gérer ces sacrées tempêtes. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu?
Alors, j'étais dans le bureau ovale le lundi suivant, quelques jours après l'ouragan Helene. Et c'est vrai, alors déjà, on a senti la tension monter au sein de la Maison-Blanche dans la journée, notamment lors du briefing presse, il y a une membre de l'administration Biden qui a lâché, en fait, qu'il y avait 600 personnes disparues. Alors là, on a entendu des soupirs, le choc vraiment dans la salle de la briefing room. Et ensuite, elle a dû vite se reprendre pour dire que ce n'était pas disparu. Mais la façon dont elle s'est exprimée, ça a prêté à confusion. Donc, elle a dû rappeler que c'était évidemment plusieurs personnes, des centaines de personnes qui n'avaient pas pu donner de leurs nouvelles. Mais en fait, on a très vite senti à partir de ce moment-là que le bilan qui était de 100 morts à l'époque allait rapidement monter. Donc ça, on a senti la tension monter. Et donc, a été ajouté à la dernière minute cette rencontre dans le bureau ovale qui n'était pas prévue. C'était en fin de journée, donc avec, on était peut-être 8-10 journalistes présents. C'était notamment, l'objectif pour Biden, c'était de s'adresser aux Américains. Il était en Zoom avec le gouverneur de Caroline du Nord, donc il a évidemment dit ses condoléances. Et on a senti qu'il était très frustré, notamment lorsqu'une journaliste l'a lancé sur les propos de Donald Trump qui a l'accusé de ne pas apporter des secours dans les zones dites républicaines. Alors là, tout de suite, il a dit c'est faux, irresponsable. Il était vraiment en colère. Et puis, on l'a aussi senti frustré quand il y a une journaliste qui lui a demandé, mais en fait, comment ça se fait, vous avez passé le week-end dans votre maison du Delaware et que vous n'étiez pas à la Maison Blanche. Et là, il a dit non, mais j'étais au téléphone. Wilmington, c'est qu'à 90 miles. Vous ferez le calcul. Bon, c'est pas très loin. Ouais. Mais on a senti aussi un peu de gêne. Et d'ailleurs, là, il a décidé d'annuler son voyage en Allemagne et en Angola. Mais c'est vrai que c'était quand même un moment intéressant où on a senti la tension et la pression monter. Et on sent qu'ils réagissent quand même différemment pour préparer cet ouragan monstrueux.
Alors, Joe Biden, bon, il était à la Maison-Blanche, il est aussi allé voir ce qui se passait justement sur le terrain. Et Kamala Harris fait aussi la même chose, mais il y a cette espèce de... On jongle un peu entre « faut que je me colle sur lui », mais pas trop quand même. Alors, comment vous voyez ça ?
C'est très compliqué d'être la vice-présidente parce que, en fait, tu dois porter la responsabilité de tout ce qui s'est passé pendant l'administration Biden, alors que tu n'es que vice-présidente. En fait, tu n'as pas un rôle décisionnaire, tu as un rôle de conseil. Et puis là, donc évidemment, même si c'est Joe Biden, l'administration, la FIMA et tout ça qui va gérer ces désastres, forcément, Kamala Harris, on s'attend à... Enfin, les gens veulent voir qu'elle est active. Elle veut montrer qu'elle est active alors qu'elle n'a pas beaucoup de prise sur la situation. C'est une sorte d'entre-deux un peu compliqué pour Kamala Harris à gérer, je trouve.
Sébastien ?
Mais je trouve que globalement, sur les derniers gros dossiers, les dernières grosses actualités, Biden passe la main un peu à Kamala Harris. En tout cas, il l'associe aux actualités. C'est vrai que là, elle a participé aux réunions auxquelles tu as assisté, Sonia, et à d'autres briefings avec la FIMA, l'agence de gestion des catastrophes ici. Elle a participé au coup de fil il y a quelques jours de Biden avec Netanyahou, ce qui n'était pas le cas avant. On sent que Biden est en train de passer la main parce qu'il sait très bien que tous ces dossiers, alors les ouragans un peu moins, mais en tout cas le Proche-Orient, ça va se retrouver sur le bureau ovale, potentiellement de Kamala Harris.
Oui, c'est vrai, sur les visites, par exemple, sur la visite de Zelensky. C'est Joe Biden qui accueille le président ukrainien dans le bureau ovale, mais la déclaration solennelle ou formelle à la presse derrière avec Volodymyr Zelensky, eh bien c'est Kamala Harris qui l'a fait. Pareil sur les raids israéliens dans le sud du Liban. On sent vraiment que oui, on met en avant Kamala Harris sur les dossiers régaliens pour augmenter sa stature présidentielle. Ça, c'est pour la campagne, c'est évident.
On est quand même à moins d'un mois de la présidentielle, on le disait, on ne peut pas faire abstraction de la politique aérienne, de la récupération politique, voilà. Même en pleine tempête tropicale. Bon, Donald Trump, on l'entend toujours, il s'en donne à cœur joie pour fusiller les efforts d'aide de la FIMA, qui est l'agence fédérale des mesures d'urgence, avec des attaques. Puis aussi, il y a les coups de pouce de la Maison-Blanche qui essaient de contrecarrer ça. On peut écouter un extrait d'une des nombreuses déclarations incendiaires de Trump là-dessus.
« They stole the FEMA money just like they stole it from a bank so they could give it to their... » Illegal immigrants that they want to have vote for them. We're missing $1 billion they gave them to the migrants that came in.
Voilà, donc Trump dit ils ont volé l'argent de la FIMA comme ils l'ont volé à une banque pour qu'ils puissent le donner aux immigrants illégaux afin qu'ils votent pour eux. Il nous manque $1 milliard, ils les ont donnés aux migrants. Tout ça évidemment est faux. Sébastien, on en a entendu des vertes et des pains mûrs de la part de Trump et des Républicains. On est vraiment dans la désinformation. Est-ce que tu as d'autres exemples de cette mauvaise foi quand même assez évidente ?
La plus grosse mauvaise foi, c'est celle de Marjorie Taylor Greene, l'élue à la Chambre, l'élue de Géorgie, qui est une Trumpiste pur jus, qui n'hésite pas à aller au-delà de quasiment toutes les limites à chaque fois et qui est là qui dit, sans les nommer, que les démocrates peuvent contrôler la météo.
Le président Trump avance des mensonges incroyables. Ils disent que les gens touchés par l'ouragan vont recevoir $750 en cash et rien de plus. Ça n'est pas vrai. Ils disent que l'argent nécessaire pour cette crise a été détourné en faveur des migrants. De quoi ils parlent, bon sang ? Arrêtez ces mensonges, c'est faux ! Ils disent même que le gouvernement contrôle la météo. C'est tellement ridicule.
It's gotta stop. On a quand même vu ce tweet
très fort
qu'elle a publié. Donc là, encore une fois, elle ne nomme pas les démocrates, mais on est vraiment dans le degré zéro, j'allais dire, de la conspiration. Il y a les propos de Trump, t'en as diffusé un moment, il y en a eu de tas d'autres. Il y a aussi, c'est un peu lié, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, ancien candidat à la primaire républicaine, qui lui refuse de prendre Kamala Harris au téléphone. Il y a clairement une récupération politique de la part des républicains.
Il fait, Jordan, très beau à Washington, ville essentiellement démocrate, comme par hasard.
Comme par hasard. Et oui, non, mais c'est ça. Parce que souvent, il y a un désastre qui frappe un État démocrate. Les républicains, enfin, il y a des voix un peu de la droite sociale qui m'ont dit que c'est la punition divine parce qu'ils soutiennent les trans ou que sais-je. Et puis après, quand ça frappe les Appalaches, une région républicaine, ils disent que c'est les démocrates qui contrôlent la météo. Enfin, c'est vraiment une sorte de cette idée d'une conspiration qui a quelque chose qui est assez ancré. Et en même temps, c'est assez dangereux.
Il y a un danger, justement, parce que quand on commence à invalider tous les efforts qui se font sur le terrain et qu'on invente des choses, il y a des impacts, là.
Sur les secouristes et ceux qui sont sur le terrain pourraient devenir des cibles de la part des gens qui tout d'un coup, vont les considérer comme des agents d'une sorte d'État démocrate qui essaye il y a des rumeurs qui font comme s'ils étaient en train de dilapider les comptes des gens, ils étaient en train de confisquer leurs biens pour redonner à des gens dans les villes. Enfin, il y a toutes sortes de théories les plus loufoques possibles, mais qui circulent et les gens croient à chaque fois quand ils voient quelque chose sur Facebook. Et aussi le risque que ces gens ne se tournent pas vers l'État pour accéder aux aides auxquelles ils ont droit. Mmh. Et c'est ça aussi, quand Donald Trump il n'y a plus d'argent, ils n'ont plus rien à donner, ils vont te donner les 700 balles pour les premières nécessités.
Ouais, dans 750 dollars, et ceux qui diffusaient ça, les Fox News et compagnie, ils coupaient l'extrait à 750 dollars, soi-disant parce qu'ils ne recevraient rien d'autre, alors c'est pas
ça.
Le cas.
Il y a des aides beaucoup plus importantes qui arrivent dans un deuxième temps, quand ils ont été construire, quand il s'agit de faire ça, c'est bon, 750 balles pour, dans un premier temps, de payer un logement, enfin, une chambre d'hôtel, de s'acheter de l'eau, de s'acheter à manger. Enfin, et c'est ça, ces mensonges qui pourraient être vraiment dommageables pour les personnes que les républicains sont, entre guillemets, censés défendre.
Parce que Sonia, face à toutes ces controverses, ces mensonges, ces faussetés, là, on a les organismes comme FEMA ou la Croix-Rouge américaine qui doivent démentir tout ça, remettre les pendules à l'heure. Quand
oui,
même.
Tout à fait. Notamment la Croix-Rouge qui a dit sur X que la désinformation nuisait aux efforts de secours. C'est exactement ce que disait Jordan. Et pour aussi revenir sur ce que disait Jordan, je voyais tout à l'heure une stratégiste démocrate qui disait qu'elle était extrêmement inquiète parce que son oncle, qui est un grand supporter de Donald Trump, ne veut pas quitter la Floride et qu'il vit avec son grand-père et que donc le grand-père ne peut pas non plus être évacué parce que son oncle refuse. Donc clairement, cela met des vies en danger. Et pour terminer, je voulais aussi dire que finalement, cette désinformation se nourrit aussi par contre de témoignages vrais. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux quand même pas mal de témoignages de gens qui honnêtement disent qu'ils étaient surpris de ne pas avoir été, de ne pas avoir vu les secours arriver plus tôt. Enfin, on a l'impression quand même que l'État n'a pas pu prévoir ou réaliser l'ampleur de cet ouragan qui a touché même, comme tu disais, les Appalaches. Et donc, quand même, il y a eu des problèmes au niveau de l'accès des secours. Alors, évidemment, c'est très compliqué, mais il y a quand même beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens.
Alors, est-ce que ces ouragans, ça fait partie un peu des mythiques surprises d'octobre? Bon, là, c'est un espèce de phénomène qui revient tous les 4 ans présidentiel. D'abord, Guillaume, c'est quoi la surprise d'octobre? Ça vient d'où, ça?
Ça vient, je crois que c'est la première fois que ça a été mentionné, c'était pendant la campagne 1980, pendant laquelle Ronald Reagan accusait Jimmy Carter de négocier avec l'Iran pour la libération des otages et de préparer une surprise qui allait faire basculer l'élection en octobre. Ça n'est jamais arrivé, puisque les otages, ils ont été libérés en même temps. Je me souviens très bien que j'étais enfant, mais je m'en souviens quand même du split screen de l'investiture de Ronald Reagan et de l'avion qui décolle de Téhéran ce jour-là. Donc ça avait été plutôt en fait à l'avantage de Ronald Reagan. Et puis il y a d'autres choses qui sont passées pour des surprises d'octobre. Les fameux emails d'Hillary Clinton en 2016 qui ont été révélés par WikiLeaks et qui ont été utilisés très habilement politiquement par les Républicains. Quant à dire que les ouragans sont une surprise, là, je m'inscris un petit peu en faux, Frédéric, parce que en fait, ça fait quand même des années qu'on sait qu'il va y avoir des ouragans de plus en plus forts et que ça peut taper en août, mais aussi en septembre et puis éventuellement début octobre quand c'est en train de se produire. Donc, en fait, non, c'est pas une surprise.
Mais ça peut donner des munitions, par exemple, aux Républicains en disant « Regardez, les démocrates ne sont pas capables de gérer des crises. »
Oui, mais c'est peut-être qu'ils auraient pu le prévoir.
Ouais. Sauf que jusqu'ici, même les gouverneurs républicains des États concernés pour l'ouragan, l'ouragan Hélène, parce que ça c'était il y a 2 semaines, en fait, disent que l'administration a fait tout ce qui était possible. Donc c'est ça ce qui est assez frappant dans cette histoire.
Mais après, bon, 2 tentatives d'assassinat présumées contre Donald Trump, après le départ de Biden, après des livres qui sortent, tout ça, est-ce toutes ces surprises d'octobre, est-ce qu'on n'est pas un petit peu insensibilisé? On a l'impression que d'une journée à l'autre, bon, il y aura une autre surprise demain, c'est qu'on les voit plus, on les sent plus finalement. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi dans cette campagne un peu étrange et bizarre?
Oui, c'est totalement. Vous souvenez quand on avait fait l'enregistrement au lendemain du retrait de Joe Biden, il y avait eu une séquence totalement hallucinante, la tentative d'assassinat, la convention républicaine, le retour et le retrait de Joe Biden, tout ça en 10 jours. Donc finalement, oui, on est immunisé, il pourrait se passer à peu près n'importe quoi. Bon, ça serait pas une brève, on le traiterait, mais ça ne nous surprendrait pas tant que ça.
Le bilan d'Hélène est terrible, enfin, plus de 200 morts, c'est l'ouragan le plus dévastateur depuis Katrina, et puis là, vite, on enchaîne sur le nouvel ouragan, enfin, on n'a même pas le temps de se poser, enfin, les Américains, on voit passer les drames comme ça, finalement, ça se succède.
C'est même plus la saveur du mois, c'est la saveur du jour maintenant, hein. ça tourne sans arrêt, c'est incroyable. Bon, octobre, c'est le temps aussi des commémorations du 7 octobre et de l'assaut qui était lancé par le Hamas aux abords de l'enclave de Gaza. Depuis, on sait, le conflit s'est enlisé, ça déborde sur le Liban. Alors, l'impact sur la campagne présidentielle, on va en parler. Ça semble assez limité jusqu'ici. Moi, j'ai été faire un tour au Michigan, qui est un état clé, qui abrite plus de 200 000 arabo-musulmans, qui votent traditionnellement démocrate, mais cette fois-ci, c'est pas gagné pour Kamala Harris. Écoutez plutôt.
Je ne pense pas que je peux vraiment en bonne conscience aujourd'hui voter pour quelqu'un qui appartient à l'administration actuelle. Et si elle perd l'élection en entier à cause de nous, ben je serai content. Parce que ça sera une leçon pour des administrations à venir que nous sommes des gens aussi, nous sommes des humains aussi.
Voilà, donc ça c'était Abed Ahmed, un Libano-Américain forcément en colère. Bon, Sonia, est-ce que c'est une épine dans le pied, notamment au Michigan, pour Kamala Harris, ce vote-là qu'elle n'arrive pas à aller chercher?
Oui, bien sûr, c'est une épine dans le pied parce qu'on le sait très bien, cette élection va être extrêmement serrée. Elle va peut-être se jouer à 100 000, 200 000 voix. Et tu l'as dit, il y a 200 000 personnes d'origine arabe dans le Michigan. Et du coup, tout est et c'est un état clé, donc évidemment que c'est important. Et en plus, déjà il y avait Gaza, maintenant il y a le Liban, et l'immigration libanaise aux États-Unis est très importante, c'est l'une des plus importantes immigrations arabes aux États-Unis, donc c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, je viens de parler avec Rebecca Abouchadid, qui est une des plus grandes activistes à Washington sur le sujet, qui a organisé la réunion à la Maison Blanche entre des Palestiniens et le président et la vice-présidente, et elle me disait que en fait elle sait pas du tout ce qu'elle va faire, elle prendra sa décision le jour de l'élection. Donc je pense que c'est difficile de faire des prédictions. Il y en a beaucoup qui vont aller voter pour le Parti Vert, beaucoup qui ne vont pas voter, et puis il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils vont faire.
Oui, et d'ailleurs, il y a l'association des Uncommitted, ceux qui ne voulaient pas prendre parti pendant la primaire du Parti démocrate, qui vient de se prononcer par le biais d'un communiqué, qui appelle à ne pas voter Trump, mais qui ne dit pas voter Harris.
Je me souviens, j'étais dans l'Arizona pendant la primaire, là, la population musulmane est moins importante que dans le Michigan, mais toujours suffisamment grande pour faire la différence dans une élection. Donc c'est ça pour chaque petit groupe démographique dont on parle dans cette élection. En fait, un petit changement de comportement pourrait faire la différence pour l'un ou l'autre candidat.
Est-ce que certains me disent, en fait, c'est qu'ils savent très bien que Kamala Harris peut pas aller à l'encontre du message officiel, le soutien à Israël, mais en fait, ils sont étonnés qu'elle ne fasse pas plus d'efforts d'aller plus à la rencontre de cette communauté, de faire des shows, je sais pas, radio ou podcast, comme elle l'a fait à l'intention du vote des femmes, notamment quand elle est passée sur le podcast Call Her Daddy il y a quelques jours. Donc, en fait, beaucoup attendent d'avoir un peu plus d'attention de sa part.
Ce qui nous amène évidemment au sondage, parce qu'il y en a bien parmi vous qui nous écoutaient, d'ailleurs merci d'être là, fidèle au poste, qui se demandent mais comment ça se fait qu'avec tout ce qu'a dit, tout ce qu'a fait Donald Trump et tout ce qu'il promet de faire s'il était élu, c'est encore aussi serré, on est virtuellement quasiment une égalité, même dans certains états clés. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui, Guillaume ?
Comment on peut être indécis surtout ? C'est quand même assez étonnant, ces deux programmes qui sont totalement différents, deux personnalités qui sont totalement différentes, et apparemment il y a encore dans chaque comté de chaque état-clé 5-10 000 personnes qui disent oh, je sais pas, j'hésite un peu entre les deux. C'est étonnant qu'on n'arrive pas à faire une différence entre les deux. Kamala Harris, malgré tout, par rapport à Donald Trump, elle n'était que vice-présidente, elle doit assumer une partie du bilan de Joe Biden qui est très impopulaire, elle doit aussi se différencier, et finalement on disait il n'y a pas si longtemps qu'elle devait se présenter aux électeurs, elle est encore dans cette phase-là, Kamala Harris. C'est pas pour rien qu'elle a fait des émissions avec son amie Oprah Winfrey, c'est pas pour rien qu'elle est allée au Late Show de Stephen Colbert qui est très écouté, c'est pas pour rien qu'elle a été à The View sur ABC où il y a son amie ou encore Whoopi Goldberg, et c'est parce qu'elle a besoin encore de convaincre. Elle doit aller chercher les électeurs, je crois que si j'ai employé cette expression la dernière fois, elle doit aller les chercher avec les dents. Il y a encore du travail d'ici à la fin de l'élection. Je ne sais pas si une surprise pourra faire basculer l'élection, mais il faudra vraiment creuser ce sillon jusqu'au bout.
Mais elle explique quand même, bon, et peut-être qu'elle répète souvent la même chose, les mêmes réponses aux mêmes questions, mais qu'est-ce qu'il faudrait de plus qu'elle fasse dans le fond pour essayer de grimper un peu dans les sondages ? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois elle arrive à un plateau, et là ça descend un peu, puis après ça remonte, donc il n'y a pas de... Ça a l'air très mou en fait, ce soutien-là.
Je ne sais pas ce qu'elle peut faire, mais en tout cas elle a le plus gros portefeuille de cette campagne. On vient d'apprendre qu'elle avait levé $1 milliard, ça n'est jamais arrivé en quelques mois depuis qu'elle est candidate, c'est sorti pas plus tard qu'aujourd'hui où on enregistre. Elle a le plus gros portefeuille, elle sillonne beaucoup le pays, elle est sur tous les fronts. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ? J'avoue que je n'en sais rien.
Alors moi, ce que j'ai entendu ces derniers jours de la part correspondante de la Maison Blanche, mais aussi de démocrates, en fait, ils trouvent qu'elle n'en fait pas assez. Beaucoup disent qu'elle devrait faire encore plus de déplacements, d'aller encore plus à la rencontre des électeurs. Là, elle a commencé, comme tu dis, à faire pas mal d'interviews.
Oui.
Mais en fait, il y en a qui commencent à être un peu frustrés parce qu'ils se disent elle fait, je ne sais pas la moitié moins de Trump, mais elle fait quand même moins que Trump. Et là, on sent une frustration monter.
Elle fait néanmoins plus qu'Hillary Clinton à l'époque. Il faut aussi le noter, hein, parce que ça avait été beaucoup reproché à Hillary Clinton de ne pas avoir fait le travail. De ce point de vue-là, l'équipe Kamala Harris, oui, il y a quand même un blitz médiatique, un blitz dans les états-clés, même si, il va falloir dépenser de l'argent et y retourner plusieurs fois par jour pendant les derniers jours de la campagne. Il y a quand même un effort qui est fait. Oui, l'Amérique est divisée.
Et voilà.
Et voilà.
C'est la polarisation. C'est ça la polarisation.
C'est ça la polarisation. On se bat sur vraiment aux marges.
Bon, pour terminer sur les sondages et pour bientôt fermer la parenthèse de ce podcast, cette balado, on va parler quand même très vite, Jordan, peut-être du débat des VP, parce qu'on a l'impression que ça, c'était dans une autre vie, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans une autre galaxie. Donc on avait J.D. Vance, le républicain, Tim Walz, le démocrate.
Ce dont je me soucie le plus, ce sont les habitants américains de Springfield, Ohio, qui ont leur vie détruite par Kamala Harris, qui a ouvert les frontières.
Senator, your time is up. Governor, you have one minute to respond.
Il y a un problème à toujours mettre ce sujet sur le tapis, à ne pas le gérer, et à blâmer les migrants pour tout.
Bon, ça n'a pas eu un grand impact. C'est pas une surprise en général dans les sondages.
Le président n'a jamais de grand
impact. Non, mais exactement. Mais on en retient quoi ? Est-ce qu'on retient quelque chose dans le fond de ça ? Parce qu'on disait que c'était très civilisé, ils étaient même d'accord sur certains points, mais qu'est-ce qu'il en reste de ce débat-là ?
Si vous êtes républicain, vous allez trouver que Tim Walz, qui campe un peu ce décor d'homme blanc du milieu du pays, un peu bonhomme comme ça, a été un peu brouillon, mis en difficulté un peu avec certains dossiers qu'il ne maîtrise pas. Clairement pas énormément comme la politique étrangère. Aussi, il avait du mal à expliquer un peu pourquoi il avait dit qu'il était allé en Chine quelques mois avant Tiananmen ou pas. Mais surtout, c'est lui qui a mis en difficulté J.D. Vance, qui tout d'un coup était incapable de dire que l'élection de 2020 était légitime. Et c'était tout à la fin du débat, donc ceux qui avaient zappé avant ont raté ce moment-là. Mais c'était vrai, et c'était frappant, parce qu'il y avait un J.D. Vance très très lisse qui a essayé de réécrire l'histoire de la présidence de Donald Trump, où Donald Trump était celui qui avait essayé de sauver Obamacare, ce qui on ne peut plus éloigner de la vérité. Enfin, c'était assez frappant. Et puis tout d'un coup, cette espèce essayer de se montrer comme pas l'homme qui dit autant de choses misogynes qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans toutes les interviews. Il essaie de donner cette image lisse-là. Et puis là, c'était à la dernière minute, la 99e minute du débat, qu'il y a ce moment-là qui fait écrouler cette façade.
En fait, il était très polissé. Pardon, Guillaume, je te coupe la parole, mais on a eu en face de nous un J.D. Vance complètement polissé, un Trump très doux qui est allé serrer la main à peine arrivé à Tim Walz, qui a même été d'accord avec lui parfois, qui a dit aussi des énormités. Tu en as parlé, Jordan, mais globalement, on avait un J.D. Vance où rien dépassait.
Il était très bon. Enfin, moi, je pense
il était très bon. Il était meilleur que Walz.
Si quelqu'un a gagné, c'était J.D. Vance. Et pour les undecided dont parlait Guillaume, ça peut convaincre certains.
Oui, parce que J.D. Vance partait avant. Les attentes étaient plus élevées pour lui, ou moins élevées, je vais m'expliquer, avant ce débat. C'est-à-dire que avant ce débat, et on mentionnait toutes les énormités qu'il a dites sur les réseaux sociaux qui tournent en boucle partout. Donc avant ce débat, il passait pour un weirdo, quelqu'un de bizarre, qui a des sorties bizarres, des phrases et des attitudes bizarres. Et il a très bien réussi, à mon avis, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jordan, à passer pour quelqu'un de normal. Et dans la perspective du ticket, je pense qu'il a plus bénéficié à Donald Trump que sur ce débat Tim Walz a bénéficié à Kamala Harris. Je pense que J.D. Vance a mieux réussi son débat.
Mais ce qui était particulier, c'est que le format du débat, normalement, il n'était pas supposé avoir de fact-check, donc pas de vérification des faits. Et à un moment donné, il a dit quelque chose et une des modératrices a dit « Attention, ça c'est... Ah, non, vous n'êtes pas supposé faire des vérifications de faits. » Donc juste recadrer un peu la modératrice. «
I was told there would be no fact-checking. »
C'est ça, donc je peux dire des mensonges en toute impunité. Quoi. Bon, écoutez, c'est un gros menu qu'on vient de digérer là, évidemment.
Pas de fact-checking, en revanche.
Non, pas du tout, jamais. Alors, écoutez, gros numéro. Dans le prochain numéro, il y aura encore pas mal de choses dont on va discuter. Menu chargé, il y a Obama qui va arriver. Qu'est-ce qu'on surveille en fait dans les deux prochaines semaines ?
L'ouragan.
Milton.
Encore.
Barack.
Et puis la surprise
et plus
d'octobre.
De meeting, ouais. Et puis une autre. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir un truc encore d'ici octobre.
Ah bon, ouais. C'est sûr, il va y avoir plusieurs trucs d'ici à la fin du mois. C'est certain. Ouais.
Sonia Dridi, merci beaucoup.
Merci.
Guillaume.
Avec plaisir.
Monsieur Jordan.
It's a pleasure.
Et Sébastien.
See you.
Bon, ici Frédéric Arnoul. Merci à vous d'avoir été là. À très bientôt.
Washington, D.C.
le podcast des médias francophones publics. Radio-Canada, Radio France, RTS, RFI, RTBF.